Bonjour à tous. De graves débordements hier soir au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions de football. Tensions, mouvements de foule, resquilleurs, tentatives d'intrusion et gaz lacrymogène. L'avant-match a viré au fiasco, polémique sur l'organisation. La presse anglaise utilise des mots très durs. Gérald Darmanin rejette la faute sur les supporters munis de faux billets. Nous sommes à Londres dans un instant. Invité de ce journal, Jean-Christophe Couvi du syndicat SGP Police. L'actualité à l'étranger, Joe Biden rencontre cet après-midi les familles des victimes de la tuerie d'Uvalde. La police israélienne en état d'alerte à l'occasion de la journée des drapeaux à Jérusalem. Et puis nous reviendrons sur le titre de champion d'Europe de rugby et de La Rochelle avec le retour des héros rochelais cette nuit, le palmarès du Festival de Cannes et le cinéma belge dans une forme olympique. La météo, ciel variable, Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
La fête gâchée du football européen lors de la finale hier soir de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool au Stade de France. La presse européenne parle d'une soirée de chaos et de fiasco sans éclipser la victoire 1-0 de Madrid qui remporte son 14e titre européen. Et plus que la défaite de Liverpool, la presse britannique aujourd'hui a des mots très durs sur l'organisation de cette finale au Stade de France, rebaptisé Stade de Farce en français dans le et les tabloïds. Des mouvements de foule provoqués par des supporters sans billets ou avec de faux billets ont retardé l'accès au stade. Le coup d'envoi de la finale, le match le plus important de l'année du foot européen et regardé en général par plus de 300 millions de téléspectateurs, a dû être retardé de 36 minutes. Décision inédite dans l'histoire de la Ligue des Champions. Colère ce matin de la presse anglaise et réaction du gouvernement britannique. Correspondance à Londres, Richard Place.
Le pire match européen que j'ai jamais vu, des fans exemplaires dans des circonstances choquantes. Ces mots sont ceux d'un porte-parole de la police de Liverpool, de la brigade spécialisée qui accompagnait les supporters au Stade de France, un communiqué publié dans la nuit. Le club de Liverpool réclame une enquête formelle sur des problèmes qu'il juge inacceptables. Les journalistes anglais présents au stade hier racontent tous leur surprise face à une réaction qu'ils jugent disproportionnée de la part des forces de l'ordre françaises, en particulier l'utilisation excessive des gaz lacrymogènes. Ce matin, le ministre Brandon Lewis a réagi sur Sky News.
Ce n'est pas la première fois que nous voyons ça à l'étranger. Nous sommes très chanceux ici au Royaume-Uni. Nous avons une police spécialisée là-dedans. Ils sont très bons. Nous devons savoir ce qui s'est passé dans le détail. Mais c'est préoccupant de voir ces gens empêchés d'entrer au stade ou qui ont été traités avec une approche très agressive.
Il oublie un peu vite le fiasco total de la finale de l'Euro il y a un an à Wembley, plus de 6000 personnes sans billets avaient tenté d'entrer dans le stade londonien. Certaines y étaient parvenues, des bagarres avaient éclaté. Les policiers anglais étaient complètement dépassés. Londres, Richard Place, France Inter.
Et cette question aujourd'hui, à qui la faute? Bonjour Jean-Philippe Deniaux.
Bonjour Frédéric.
Dès hier soir, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin accusait les supporters britanniques avec de faux billets d'être responsables de ces graves incidents.
Oui, d'un point de vue maintien de l'ordre, le bilan est plutôt positif. En tout cas, on est très loin de celui tiré en Grande-Bretagne. Il y avait près de 7000 forces de l'ordre mobilisées pour l'événement, réparties au Stade de France, sur les fan zones anglaises, Porte de Vincennes, 30 000 personnes, et espagnoles à Saint-Denis, 4 000 supporters, puis dans les points chauds de la capitale. Après la rencontre, hormis quelques interventions près de la place de la Nation, le dispositif a permis de maîtriser les foules, sauf au Stade de France donc, avec cette affluence inédite de supporters sans billets ou munis de faux billets qui a rouillé la mécanique. Le préfiltrage s'est fait déborder et les tensions se sont déplacées jusqu'au niveau des grilles d'entrée du stade. Les policiers mobilisés ont répandu au gaz lacrymogène pour dissuader les supporters d'escalader les grillages ou de provoquer des mouvements de foule. Bilan, quelques blessés légers et une centaine d'interpellations. Ce matin, 36 personnes étaient encore en garde à vue, 24 à Paris et 12 à Bobigny, dans le cadre d'infractions relativement mineures, de violences légères, de vol et de vente à la sauvette.
Jean-Philippe Deniaux, invité de ce journal, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat SGP Police. Bonjour Jean-Christophe Couvi.
Oui, bonjour.
Je vous pose la même question. Ces mouvements de foule, ces affrontements, cette soirée chaotique, à qui la faute ?
Écoutez, je pense que la faute déjà, c'est aux supporters. Hein. Voilà, les policiers, eux, sont là juste pour gérer. Et après, j'allais dire que j'ai entendu dire qu'il allait y avoir une enquête. Bah, très bien. Parce que je pense que l'UEFA aussi quand même une grosse part de responsabilité. N'oublions pas que c'est quand même un match, donc c'est une prestation qui est privée, c'est pas public. Donc les policiers qui sont là, si vous voulez, on leur demande d'être là et en fait on paye une prestation. Voilà, donc c'est pas les policiers qui font les filtrages, c'est pas les policiers qui sont aux grilles. Encore une fois, c'est l'UEFA qui doit gérer, organiser, faire des pré-filtrages. Et vous savez, quand déjà il y a 70 000 Anglais qui débarquent à Saint-Denis ou à Paris, sachant qu'il n'y en a que 20 000 qui ont des billets, il y a des questions à se poser. Et après, c'est quand même pas non plus, j'allais dire, les citoyens français ou les policiers qui ont acheté des faux billets, qui les ont imprimés. Donc là aussi, je pense que nos meilleurs amis et ennemis, j'allais dire les Anglais, voilà, le French bashing, on le connaît, on aime bien dédouaner un petit peu les Français, enfin les accuser à tort, mais il faut aussi qu'ils creusent un petit peu leur côté, qu'ils balayent devant leur porte.
Alors Jean-Christophe Couvi, effectivement, des enquêtes ont été demandées par le club de Liverpool, par l'UEFA, vous avez raison, mais pardonnez-moi, mais pour ce genre d'événement, la police avec la préfecture de police est associée à l'organisation?
Mais oui, mais vous pouvez pas, comment dire, regardez les fan zones. Les fan zones, c'était la police qui gérait tout. Donc la police, ça s'est très bien passé, il y a eu quelques petits débordements, mais on les a vite réglés, on a interpellé du monde, et en fait, tout s'est bien passé. En revanche, quand on a un afflux de personnes qui arrivent au Stade de France, effectivement, on peut être débordé, et donc on fait l'usage de gaz lacrymogène parce qu'il fallait disperser la foule. En fait, si vous voulez, le bazar a été créé par des gens qui sont arrivés avec des faux billets qui ont été achetés souvent à la sauvette. Donc les prix oscillaient quand même entre 2000 et 4000 euros, ce qui est pas rien. Et quand ils arrivaient au tourniquet, ils pouvaient pas passer. Sauf qu'au lieu de partir et de se rendre compte qu'effectivement c'était des faux billets, ils restaient et ils stagnaient. Et ceux qui étaient derrière, qui avaient des vrais billets, n'arrivaient plus à passer. Donc il y a des émeutes, c'est très compliqué, on nous demande d'intervenir. Et la police, quand on intervient, qu'il y a des milliers de personnes, il faut déjà les disperser. On peut pas leur parler un par un, c'est pas possible.
Une question sur l'emploi des gaz lacrymogènes, Jean-Christophe Couvi, contre la foule de supporters. Une foule dans laquelle il y avait des enfants. Est-ce que l'usage de grenades lacrymogènes dans ces conditions était approprié?
Écoutez, c'est effectivement, on peut refaire le match, hein, c'est le cas de dire après. Oui, il y avait des enfants, oui, il y avait des familles. La vraie question, c'est comment on fait pour disperser des gens qui sont énervés, qui tournent à l'émeute, qui sont prêts à tout casser, qui escaladent des barrières, qui peuvent se blesser. On n'a pas d'autre choix, effectivement, d'avoir les seules armes, j'allais dire, à notre possession, c'est le gaz lacrymogène. Et c'est justement pour faire place nette. C'est regrettable, mais on n'a pas d'autre moyen à notre disposition, nous policiers.
Alors vous dites on peut se blesser, il y a eu très peu de blessés hier, en tout cas pas de blessés graves, mais ce qui s'est passé selon vous, est-ce qu'on est passé près d'un drame? Parce que ces images, malgré tout, de mouvements de foule, ça rappelle Hillsborough à Sheffield, ça rappelle Ezel en Belgique, ces mouvements de foule où il y a 100 morts à Sheffield et certains à l'entrée du stade. Est-ce que ces images alertent et inquiètent? Est-ce que ça vous alerte? Est-ce que ça vous inquiète? Et au-delà, est-ce qu'on est prêt pour Paris 2024?
Alors oui, on est prêt, enfin on monte en puissance, hein. D'ailleurs on voit bien qu'il y a une réorganisation dans la police, même des forces mobiles, ça fait depuis quelques temps quand même que le ministère se penche dessus. Après, regardez par exemple, j'allais dire à Marseille pour le rugby, on avait aussi des milliers d'Irlandais qui étaient là, alors c'est pas le même public, tout se passe bien. Le football, effectivement, c'est compliqué. 2024, les Jeux Olympiques, ça va pas être la même clientèle non plus. Ça va être des gens qui vont venir pour passer un bon moment, pour faire la fête et non pas pour venir s'aviner. Moi, je sais pas, vous avez vu les images, Place de la Nation, c'était une buvette à ciel ouvert et un dépotoir à bière. Voilà. Donc les gens qui viennent, ils viennent pas pour les mêmes raisons.
Il reste 2 ans avant les JO à Paris. Est-ce qu'il faut une police spécialisée comme le font les Anglais?
Mais on a une police, nous, déjà, avec les hooligans. On a une section anti-hooligans qui avait été créée. D'ailleurs, regardez, il y a eu tous les problèmes à un moment donné en France, notamment sur le Parc des Princes, avec le PSG, etc. On a réglé le problème. Et oui, on a une police spécialisée. Après, est-ce que la police anglaise, elle est vraiment venue nous aider? Je suis pas sûr. Est-ce qu'elle aurait dû laisser partir 50 000 à 70 000 Anglais sans billets venir ici comme ça, sans les filtrer avant? Je suis pas sûr non plus. Donc, vous voyez, on est prêt, on monte en gamme. Mais à un moment donné, il faut aussi que les Anglais balayent un peu devant leur porte.
Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du SGP, du syndicat SGP Police. Merci à vous. L'actualité à l'étranger, Joe Biden se rend aujourd'hui à Uvalde, 5 jours après la tuerie dans une école primaire. Le président américain souhaite apporter toute son empathie aux proches endeuillés par cette fusillade qui a choqué l'Amérique et qui a relancé le débat sur les armes à feu. Joe Biden doit rencontrer les familles des victimes de la fusillade qui a fait, je vous le rappelle, 21 morts, 19 enfants et 2 enseignantes. La guerre en Ukraine et les forces russes qui intensifient leurs attaques dans le Donbass. L'armée russe semble sur le point de s'emparer de toute la région de Luhansk à l'est, ce qui correspond à l'objectif de guerre fixé par le Kremlin. Dans le même temps, concernant l'église orthodoxe, la branche moscovite de l'église d'Ukraine a décidé de rompre avec la Russie et le patriarche Kirill, proche de Vladimir Poutine et clairement favorable à la guerre. Une décision historique prise à l'issue d'un concile qui parachève une séparation entamée il y a plus de 3 mois avec le début de l'invasion russe. Reportage de nos envoyés spéciaux en Ukraine, Thibault Lefebvre et Alexandre Abergel, dans l'église Saint-Georges, l'une des rares églises moscovites de Lviv, dans l'ouest du pays.
À l'entrée, un communiqué du concile est affiché, 2 pages, 9 articles, dont le 3e qui mentionne la séparation de l'église ukrainienne de l'autorité du patriarche Kirill.
Dieu est unique et lui, c'est le diable en soutane.
Et c'est donc une excellente nouvelle pour Jana, paroissienne depuis près de 50 ans.
L'Ukraine est un pays libre. Et au début de la guerre, Kirill a dit qu'il fallait nous tuer.
À l'intérieur de l'église, une cérémonie de baptême. Et une autre fidèle, discrète, elle se recueille devant une icône du Christ, elle ne veut pas donner son nom. Et du bout des lèvres, elle déclare sans équivoque son soutien à l'église de Moscou.
Ce n'est pas vrai. L'Église ne sera jamais séparée de Dieu. Le patriarche, c'est le patriarche. Et son pouvoir sur terre vient de Dieu. Et ceux qui sont partis doivent revenir. Ils doivent revenir dans l'Église.
Une opinion minoritaire. Pour le jeune pop de la paroisse, par exemple, la rupture avec Moscou est consommée depuis un moment. Et le nom de Kirill, dit-il, est depuis le début de la guerre banni des prêches.
Un reportage de nos envoyés spéciaux en Ukraine, Thibault Lefebvre et Alexandre Abergel. La police israélienne est en état d'alerte aujourd'hui à Jérusalem à l'occasion de la marche des drapeaux. C'est un défilé d'Israéliens juifs nationalistes pour qui la ville est une et indivisible. Le parcours de cette journée de Jérusalem passe par le quartier musulman de la vieille ville, ce qui provoque la colère des Palestiniens. L'autorité palestinienne dénonce une provocation. Le Hezbollah libanais et le Hamas menacent de frapper Israël. Il y a un an, le Hamas au pouvoir à Gaza avait tiré des roquettes sur Jérusalem après une marche similaire. Cette année, le contexte est différent, estime un expert militaire israélien qui craint plutôt de nouveaux attentats en Israël, comme ceux qui ont fait 19 morts depuis 2 mois. Le colonel de réserve Shlomo Mofaz, ancien chef du bureau d'analyse du renseignement militaire israélien, avec Frédéric Metezo.
Il y a une dissuasion mutuelle entre Israël et le Hamas. Le Hamas contrôle Gaza et évite de tirer des roquettes contre Israël, car après les dégâts sévères et les pertes de l'an passé, le Hamas n'a aucun intérêt à une autre guerre avec Israël. Ils veulent continuer à reconstruire la bande de Gaza et y renforcer leur contrôle. La politique principale du Hamas aujourd'hui, c'est de transférer le conflit du côté israélien et de garder la bande de Gaza tranquille. Donc, le Hamas appelle les Arabes israéliens et les Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem-Est à commettre des attentats en Israël, mais pas depuis la bande de Gaza. Israël, de son côté, n'a pas non plus intérêt à un nouveau cycle de combat, car il est clair qu'à la fin, on se retrouverait dans la même situation.
Champion d'Europe aussi, comme Madrid, mais là on ne retient que l'exploit sportif dans une atmosphère beaucoup plus festive. La Rochelle a donc remporté hier la finale de la Coupe d'Europe de rugby face au Leicester, 24-21. C'est le premier titre majeur de leur histoire. Les Rochelais ont donc ramené tôt ce matin la Coupe à la maison, accueillie par plus de 500 supporters à l'aéroport, un tout petit noyau des plus fidèles de l'équipe. Mais la victoire a été fêtée hier soir sur le vieux port de La Rochelle par plus de 20 000 personnes. Alors quand l'avion a atterri à peu près à 5h, ce matin, la communion était au rendez-vous. Reportage de Julien Fleury de France Bleu La Rochelle.
Des chants pour se réchauffer dans la nuit. Dominique est arrivé vers 1h30 du matin. Ce pur jaune et noir devait être là.
C'est la coupe qu'on voulait voir. Quelque part, moi j'ai eu du mal encore à réaliser. Moi, j'ai 70 ans, j'ai jamais connu ça. Hein. C'est énorme, quoi. Surtout que c'est le site, tout le monde nous donnait perdant. Il fallait être rochelé pour y croire.
Mais l'attente se prolonge. Vers 4 heures, un premier appareil dépose les familles de joueurs, le manager Ronan O'Gara qui s'en va discrètement. À bord également Bernard, bénévole du club, qui a déjà eu la chance de porter cette Coupe d'Europe à Marseille.
C'est beau. On l'espérait, mais la voir comme ça, c'est magnifique. Là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment excellent. On en a pleuré de joie tellement on était heureux. Voilà.
5h20, l'avion espéré se pose enfin. Le président du club, Vincent Merlingue, est le premier à franchir la porte vitrée de l'aérogare et il brandit la fameuse coupe. Trophée transmis aux joueurs, dont le capitaine Grégory Aldritz qui dédie sa victoire au public, encore meilleur que nous, répète-t-il.
On le passe vraiment, c'est leur coupe autant que la nôtre et maintenant on va passer 24-48 heures à la partager avec eux et profiter de ce moment, voilà. Ça restera écrit à jamais.
Eva s'offre un selfie avec Levani Botia.
Franchement, on les a attendus pendant 4 heures, mais on s'en fout, c'est tellement magique ce qu'on vient de vivre. Donc, c'est historique, c'est la première étoile sur le maillot. Et là, on les accueille comme il se doit.
Et la fête encore cet après-midi à La Rochelle. Le tennis à Roland-Garros avec le début des huitièmes de finale aujourd'hui. Il n'y a plus de Français ni de Françaises dans la compétition, mais on pourra suivre les stars du tennis mondial qui sont au programme ce dimanche. Jérôme Val, en direct de Roland-Garros. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Raphaël Nadal et Novak Djokovic s'affrontent dans un duel à distance, en quelque sorte, avant peut-être de se retrouver au tour suivant.
Oui, la possible confrontation entre les deux joueurs dès les quarts de finale mardi. Mais avant cela, il faut quand même qu'ils se qualifient pour les huitièmes de finale et des confrontations pour eux deux qui devraient monter d'un cran hein, par rapport à ce qu'ils ont vécu depuis le début de ce tournoi, notamment pour le numéro 1 mondial Novak Djokovic qui va rentrer dans quelques minutes sur le court Suzanne Lenglen, parce que jusque-là, sur les trois premiers tours, ça a été relativement tranquille hein, pour le Serbe. Aucun set concédé, des victoires sans trop d'efforts. Alors là, il va affronter l'Argentin Diego Schwartzmann, 16e joueur mondial, quart de finaliste ici à Roland-Garros l'an passé, mais qui n'a jamais battu Djokovic en 6 confrontations. Raphaël Nadal, lui, sera sur le central plus tôt en milieu d'après-midi. Là aussi, duel plus relevé face à Félix Auger-Aliassime. Le Canadien est 9e mondial. Il est désormais entraîné par Tony Nadal, l'oncle de Raphaël, celui qui a façonné le champion qu'on connaît. Et Tony Nadal, d'ailleurs, ne sera pas dans son box tout à l'heure, mais quelque part dans les tribunes, histoire de ne pas prendre le parti, le temps d'un match. En tout cas, voilà pour cette confrontation à distance avant le possible duel mardi pour un quart de finale dont on est évidemment très friand à l'avance.
Jérôme Val, en direct de la Porte d'Auteuil, merci. Le Festival de Cannes s'est terminé hier soir sur un succès d'audience. 3 millions de téléspectateurs pour suivre la cérémonie de clôture. La Palme d'Or a été décernée au Suédois Ruben Östlund pour Sans Filtre, une satire des super riches et du luxe sur fond de croisière extravagante. Le Grand Prix a lui été attribué ex aequo à Close du Belge Lucas Dont et à Des étoiles à midi de Claire Denis. En direct de Cannes, on retrouve Alexis Lemeyer. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Et la Belgique, justement, est au premier plan de ce palmarès avec 3 prix.
Oui, Lucas Dont, 31 ans, a frôlé la Palme d'Or. Son drame intime qui évoque l'amitié entre deux garçons que leurs camarades soupçonnent d'homosexualité décroche tout de même, vous l'avez dit, la médaille d'argent et le natif de Gand, dont c'est seulement le deuxième film, ne boude pas son plaisir.
Nous sommes jeunes et on a envie de faire du cinéma, des cinémas qui parle de choses qui pour nous sont très importantes, partager le perspective sur le monde. Et j'espère que le film va être important pour le plus large public.
Autre récompense glanée par la Belgique, le prix du jury pour un film là aussi sur l'amitié, Les 8 montagnes de Charlotte van der Meer chez Félix van Roningen. Ce couple, à la vie comme à la scène, se félicite de la bonne santé du cinéma belge.
Il y a 3 générations là, les frères d'Ardenne, puis il y a Félix qui a déjà toute une carrière, moi je le joins maintenant, waouh. Et puis il y a Lucas, on l'a connu à l'école, ses premiers courts-métrages.
Et c'est vrai qu'il y a énormément de tendresse dans ces 3 films, sans doute, et un amour pour l'humanité en général.
Et cette jeune garde a en effet le talent nécessaire pour prendre la relève des glorieux aînés, Chantal Akerman, Jaco van der Mel, Lucas Bellevaux. Quant aux incontournables frères d'Ardenne, ils repartent de la croisette avec le prix du 75e anniversaire. Tori et Lokita, dont on entend la bande originale, est une émouvante plongée dans le quotidien des mineurs isolés. Et sachez, Frédéric, que Jean-Pierre et Luc d'Ardenne, qu'on n'attendait pas forcément sur ce terrain, ont rendu hier soir hommage à l'humour belge, en qualifiant cette moisson inédite pour la Belgique de grand remplacement.
Alexis de Mégère en direct de Cannes avec les moyens techniques de Pierre Faucillon. Merci. Une date et un moment important et intime à ne pas manquer. La fête des mères aujourd'hui. À cette occasion, nous vous signalons la sortie en livre de poche d'Eva Bétan, du livre d'Eva Bétan, Le goût de nos mères. Jamel Debbouze, Claude Lelouch, Edgar Morin, mais aussi François-Régis Gaudry, d'autres encore connus ou pas connus. Ces 70 déclarations d'amour à la cuisine maternelle. Ils évoquent le goût inimitable de la cuisine de leur mère et les souvenirs et les émotions qui vont avec. Un livre à lire, à goûter et à écouter aussi avec des entretiens qu'avait réalisé Eva Bétan pour France Inter. Bonne fête des mères.